Famille Éduc, on en parle sans tabou.
Bonjour tout le monde. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi en studio à CKVL, Denise Normand-Guérette, qui est auteure, orthopédagogue, professeure associée à l'UQAM et également rédactrice en chef de la revue Psychologie préventive. Rebonjour Denise.
Bonjour Lydia.
Alors dans les chroniques précédentes, on a parlé, dans la dernière chronique en fait, on a parlé de l'aide qu'on donne aux enfants et on a même soulevé la question, est-ce possible de trop aider son enfant? Aujourd'hui, avec Denise, on va parler de doser l'aide donnée aux enfants. Donc, Denise, comment est-ce qu'on peut doser l'aide qu'on apporte à nos enfants?
Dans un premier temps, on a besoin de les observer pour être capable de voir c'est quoi leur capacité et c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, on pourrait, lorsqu'on veut leur faire apprendre une nouvelle tâche, leur demander de la réaliser devant nous, comme ils sont capables de la faire et que là, on puisse voir de quelle façon ils procèdent. Par exemple, on voudrait que l'enfant soit capable de tartiner sa tranche de pain. Alors, on lui donne la tranche de pain, le couteau, la tartinade qu'il veut utiliser, puis on lui demande de le faire pour voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire puis où est-ce que ça va poser problème. Par exemple, il prend le couteau, est-ce qu'il prend du bon côté? Est-ce qu'il pèse trop fort avec son couteau? Est-ce qu'il prend la tartinade et puis il n'en met pas assez? Est-ce qu'il en met trop? Est-ce qu'il utilise un couteau pour prendre la confiture qui est très liquide alors que ça, ça pose un problème? Il serait mieux de prendre une cuillère, déposer ça sur sa tranche de pain et ensuite la tartiner. Donc, c'est important de voir de quelle façon il procède et de l'aider là où il y a de la difficulté, ce qu'il sait déjà faire. Pourquoi lui donner toutes les étapes s'il est capable d'en faire la moitié? Les exemples que mes étudiants, qui sont des futurs enseignants, ont mis en pratique, un des enfants avait de la difficulté à positionner son couteau de la bonne façon. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est un enfant qui aimait les crocodiles. Alors, ils ont mis un petit œil sur le couteau et le couteau devenait un crocodile. Mais on a mis un petit œil seulement sur un côté du couteau. Alors, pour qu'il puisse prendre correctement son couteau, il fallait qu'il voie l'œil du crocodile. Et les dents du couteau, bien, c'était les dents du crocodile. Alors, le petit œil était là comme moyen de codification pour l'aider à savoir de quelle façon prendre le couteau. Mais après ça, on l'amenait à bien observer de quel côté du couteau il y avait les dents. Et avec le temps, le petit œil, on le fait disparaître. Là. C'est simplement un moyen pour l'aider à apprendre. Donc, l'aide qu'on va donner doit être en fonction de la difficulté que l'enfant rencontre. L'autre chose qu'on faut se poser comme question, si c'est une activité facile que l'enfant fait, est-ce qu'il a besoin qu'on soit à côté de lui, qu'on soit toujours en train de le guider? Non.
Mais non.
Et si c'est une activité difficile, oui, je peux lui donner des outils, mais je peux aussi vouloir que lui développe sa façon de trouver une solution face à une difficulté. Parce que si c'est toujours l'adulte qui amène les solutions, comment il va apprendre à résoudre des problèmes?
C'est sûr qu'on ne va pas l'aider à raisonner
oui.
par lui-même.
Donc, à certains moments, on peut lui dire, essaye différentes choses. Puis après ça, je vais venir te voir, puis tu me diras qu'est-ce que tu as essayé. Puis si j'ai d'autres idées, bien, je vais te donner mes idées à moi aussi. Une des choses que les parents me disaient dans les recherches que j'ai faites avec eux, ils me disaient, Denise, c'est tellement difficile pour moi de pas donner d'aide que ce que j'ai trouvé comme meilleur moyen, là, c'est que le petit il est à la table en train de faire son casse-tête. Bien là, je lui dis, écoute, il faut que j'aille laver ma vaisselle, là, ou il faut que j'aille faire telle chose. Commence, là, ou fais-en un bout, puis je vais revenir te voir. Et de loin, je pouvais échanger avec lui verbalement, mais si j'étais assis à côté de lui, je n'étais pas capable de ne pas donner d'aide. Alors, le parent avait trouvé un moyen de créer une certaine distance physique pour être capable de doser l'aide qu'il donne à son enfant.
C'est vrai que c'est pas facile de ne pas donner d'aide.
Non, parce que, je veux dire, il y a quelque chose d'émotif dans ça. Je veux dire, quand on aide, c'est parce qu'on veut faire du bien à l'autre. Ouais.
Et puis, à nous aussi.
Oui, 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 c'est certain. Alors, comme je le disais dans l'entrevue précédente, si je suis convaincue que j'aide mon enfant en le laissant faire face aux difficultés, ben, je vais accepter de ne pas y donner d'aide.
Oui.
Mais si pour moi, qu'il soit confronté à une difficulté, c'est la douleur totale et que je veux lui éviter de vivre cette souffrance-là, ben, je vais donner de l'aide. Donc, il faut vraiment avoir en perspective que à long terme, je veux que mon enfant devienne capable de faire face au stress qu'il va rencontrer dans sa vie puis aux difficultés, et je veux qu'il soit solide intérieurement. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas d'aide maintenant.
Oui. En fait, qu'on la dose.
Oui, c'est okay. Ça. Oui, c'est ça. C'est pas la question de ne pas en donner du tout, c'est de la doser. Et bon, il faut se poser la question, si c'est une activité que l'enfant aime ou qu'il n'aime pas, bien, c'est certain que le soutien qu'on va apporter va être différent. Souvent, quand l'enfant est face à une activité qu'il n'aime pas, on est porté à se dire, bon, ben, il veut changer, on laisse changer d'activité. Mais on peut prendre comme décision en tant qu'adulte que c'est important qu'il apprenne à faire des activités qu'il aime moins. Parce que quand il va être à l'école, quand il va travailler, il ne va pas toujours faire ce qu'il aime, là. Alors, il faut que tout petit il ait compris qu'on fait des choses qu'on aime, on fait aussi des choses qu'on aime moins. Et en fonction de ça, bien, on va doser nos exigences, on va doser aussi l'aide qu'on va donner, le soutien qu'on va donner. Si c'est un apprentissage, c'est la même chose. Je veux dire, face à quelque chose de complètement nouveau, ben, je vais essayer de trouver des moyens de codification qu'il va, lui, ensuite utiliser par lui-même. Je peux aussi lui demander, ben, comment on pourrait bien faire pour se rappeler que ça, c'est la couleur bleue. Bon, peut-être que l'enfant, il va trouver un moyen de retenir le mot bleu avec quelque chose. Ça peut être qu'on prend le mot bleuet. Les bleuets, c'est bleu. Alors, on a une association avec le son qui aide l'enfant à retenir le nom de la couleur à partir d'un fruit. Mais faut-il qu'il connaisse les bleuets.
Oui, mais ça fonctionne bien et ça fonctionne. Là, j'ai un exemple avec un enfant de 9 ans pour les multiplications. 7 fois 7, ça rentrait pas. Bien, l'équipe de San Francisco, là, les 49ers, bien là, 7 fois 7, c'est San Francisco. Ah, c'est 49. C'est resté comme ça.
Et voilà.
Donc, c'est une codification. Donc, on peut en faire sans s'en rendre compte.
Oui, puis ça nous prend de la créativité d'utiliser nos ressources puis de demander à l'enfant de se... On lui explique comment fonctionne le cerveau pour apprendre. Et à ce moment-là, l'enfant, ben, ce qu'il réalise, c'est que lui-même peut en chercher des moyens de codification. Il n'y a pas toujours besoin que ce soit les adultes qui les lui donnent.
Oui, non, parce que... Les enfants, là, ce sont des mines de ressources, souvent.
Oui.
Et comment on peut faire, Denise, pour choisir des activités à proposer à l'enfant?
Bon, encore là, les recherches que j'ai menées avec les parents nous ont amené à constater, c'est les parents qui m'ont dit, écoute, Denise, on réalise ce qu'on leur donne à faire à la maison, c'est des activités faciles, des activités qu'ils connaissent, puis des activités qu'ils aiment. Mais que finalement, quand on fait ça, ben, on les prépare pas trop à faire ce qu'ils vont faire dans d'autres milieux. Et puis, les parents ont même réalisé, ben, finalement, on les sous-estime un peu dans leur capacité en leur proposant pas des choses un peu plus difficiles. Et ça les a amenés à changer leur pratique avec les enfants, puis à leur proposer des activités qui font pas habituellement. Donc, du nouveau. Leur proposer des choses plus difficiles et puis les inciter à faire plus d'efforts pour les préparer à une diversité de situations d'apprentissage tout au long de la vie.
Puis, est-ce que tu aurais des exemples aussi de l'impact de l'aide qu'on donne aux enfants?
Bien, j'aurais peut-être un premier exemple où est-ce que, par exemple, on va en visite avec des amis, on va en visite chez des amis, on mange chez eux et on sait que notre enfant est plutôt maladroit, alors on dit, moi, je suis mieux d'y couper sa viande là, pour pas que ça fasse de dégâts. Mais on se pose peut-être pas la question, d'une part, pourquoi est-il maladroit pour couper sa viande? Est-ce que c'est parce que très souvent, pour éviter les dégâts, on le fait à sa place, donc il n'a pas développé ses habiletés?
Un manque de pratique.
Oui, un manque de pratique. C'est peut-être pour d'autres raisons. Et là, il faudrait observer. Je veux dire, est-ce que son tonus musculaire, est-ce que la force qu'il a pour tenir son crayon est assez grande? Est-ce qu'il a les mains qui manque de force. Moi, ça m'est arrivé de voir avec un enfant qui avait de la difficulté à tenir son crayon. Il n'y avait pas de force avec ses doigts. Alors là, je lui ai expliqué combien c'était important. Puis c'est un enfant de 4 ans, là. Puis quand il a compris qu'il fallait qu'il renforce le bout de ses doigts, bien, les exercices que je lui ai montré à faire, bien, il les faisait avec plaisir, hein, parce qu'il voulait devenir capable de tenir son crayon à colorier, puis colorier de façon plus, plus forte. Là.
Plus forte, que lui, ça soit plus à son goût.
Oui. Puis, bon, dans l'exemple de l'enfant qui est en visite, il faut se poser la question, aux yeux des autres enfants, aux yeux des autres adultes, si on lui coupe sa viande, qu'est-ce que... les autres vont penser de cet enfant-là. Est-ce qu'il risque pas de se sentir humilié, l'enfant? Alors, nous, on veut l'aider, on veut éviter un dégât, mais on crée quelque chose qui est encore plus important et silencieux au plan émotionnel.
Tout à fait.
Parce qu'il va pas le dire, mais il va le ressentir, puis il va être mal. Bon, un autre exemple, ce serait... souvent, les enfants veulent pas toujours qu'on les aide et ils nous le font savoir. Mais ils font des petits gestes très, très discrets, puis on les voit pas. L'enfant qui repousse très légèrement la main de l'adulte.
Donc, le laisser agir par lui-même, c'est important aussi pour son estime de lui. Là, j'ai en tête des exemples de bricolage ou de poterie ou de pâte à modeler. Quand l'enfant le fait, et t'as l'adulte derrière qui le lisse, qui le retravaille un peu. Qu'est-ce qu'on lui envoie comme message en l'arrangeant comme ça?
Bon, bien, je pense qu'il faut d'abord prendre conscience que pour certains enfants, ils sont conscients de l'aide qu'ils reçoivent et on va même être étonné quand la production va être finie et qu'on va avoir, que l'adulte va être passé derrière le travail de l'enfant, que l'enfant ait l'air pas satisfait de sa production. Mais au fond, c'est qu'il est conscient que c'est pas lui qui l'a réalisé complètement et que les adultes qui sont venus comme corriger la chose lui ont envoyé comme message, ben c'était pas trop beau, c'était pas trop bon, t'es pas vraiment à la hauteur des attentes que j'ai à ton égard et ben ça aide pas l'enfant à développer la fierté de soi. C'est parfois mieux que la production soit pas parfaite, mais que ça soit le travail réel de l'enfant. Et qu'on envoie aussi comme message à l'enfant, bien, aujourd'hui, il est comme ça ton bricolage. La prochaine fois, tu vas devenir plus habile parce que tu vas l'avoir fait aujourd'hui puis tu vas te pratiquer à plusieurs autres occasions. Et c'est comme ça qu'il développe sa fierté. Par ailleurs, il y a d'autres enfants, eux, qui sont pas du tout conscients de l'aide qu'ils reçoivent. Puis quand ils arrivent à l'école et qu'on leur demande de faire un bricolage, bien là, c'est la grande déception face aux résultats qu'ils obtiennent. Ils peuvent remettre en question leur capacité, mais ils peuvent aussi se fâcher face aux résultats. Parce que pour eux autres, c'est pas normal que ça soit pas beau. Ils n'ont pas réalisé que l'aide reçue faisait en sorte que le résultat était différent.
Ils ont toujours eu des beaux bricolages. Puis dans leur tête, ils ne recevaient pas d'aide.
C'est ça. Et puis, en tant qu'adulte, on ne se rend pas toujours compte des conséquences de l'aide qu'on donne. Ça pourrait même aller jusqu'à l'enfant ne veut plus faire de bricolage à l'école. Mmh. Alors, si un parent n'aide pas son enfant, dans certains cas aussi, s'il est avec un groupe de parents qui, eux, aident beaucoup leurs enfants, il peut être vu comme un mauvais parent. Parce que, aux yeux des autres, on est habitué d'aider les enfants. Alors, si toi, t'aides pas ton enfant, ben voyons, c'est pas normal. Alors,
En fait, que parfois, ne pas l'aider, en fait, physiquement, concrètement, c'est de l'aider dans ses apprentissages.
Oui, puis c'est de l'aider à développer la perception que c'est de lui que dépend le résultat qui va arriver au bout là, de la tâche, puis que c'est de ça dont il peut être fier. Alors, il va être important pour un parent qui est dans une situation comme celle-là, qu'il ait la conviction que son attitude puis son comportement, bien, ça a pour but d'amener l'enfant à développer son autonomie pour être moins dépendant de l'aide des adultes, pour être moins frustré aussi par rapport à ses difficultés lorsqu'il en rencontre, puis savoir plus se débrouiller dans la vie, dans différents contextes.
Oui. Denise, comment on réagit devant un décès, un bricolage qui a été vite fait? Tu sais, on ne va pas y dire « Oh, c'est beau! » Quand on le sait là, que non seulement c'est pas très beau, mais c'est surtout qu'il l'a fait très vite.
Oui. Oui. Bien, je pense que c'est important qu'on envoie comme message à l'enfant qu'on s'attend à ce qu'il soit tu sais, qui aille plus loin que ce qu'il vient de nous proposer comme production, on peut lui dire, ben tu pourrais ajouter des dessins pour me raconter plus de choses sur ta feuille. Bon, là, évidemment, je prends un langage pour un enfant tout petit, mais avec un plus vieux, on va dire les choses. C'est ça. On pourrait lui dire, ben mets plus de couleurs dans tes dessins pour qu'on les voit mieux. Ça pourrait être aussi, il y a encore beaucoup de place, il y a encore beaucoup de blanc sur ta feuille. Continue ton dessin. Donc, toujours pas nécessairement de dire c'est merveilleux, puis pas de dire non plus c'est pas beau, mais de mettre l'enfant dans l'action pour qu'il agisse par lui-même.
Bien, merci beaucoup, Denise. Toujours un plaisir de t'avoir en studio ici à CKVL.
Merci beaucoup, Lydia.
Pour tous les organismes et les gens engagés dans la communauté et passionnés par la famille, visitez-nous sur le famille.quebec.com.
Partagez, écoutez, faites écouter. C'est aussi aider et sensibiliser. Produit et diffusé sur les ondes de CKVL 100,1 FM, aussi en diffusion sur le web au 100-1fm.com. Nous sommes aussi disponibles sur l'application TuneIn Radio à CKVL-FM.